Les oiseaux ont une forme d'intelligence, reste à définir quelle est cette forme.
Donc on doit poser des questions de dauphins à des dauphins, des questions de blattes à des blattes, des questions de chats à des chats.
Mademoiselle Desbiers va, avec une lame de rasoir, couper la tête, si l'on peut dire, de la plante.
Oui, les plantes sont intelligentes. Elles sont fixées, donc elles doivent absolument percevoir tout ce qui se passe dans l'environnement pour réagir très rapidement, finalement.
J'ai peur !
Aujourd'hui, focus sur le biomimétisme. Le secteur est bourré de promesses, surtout en cette période de crise sanitaire et de réchauffement climatique. Le biomimétisme, c'est l'art de s'inspirer des principes du vivant. Le vivant constitue une formidable source pour les chercheurs et les ingénieurs. Depuis 3,8 milliards d'années, le vivant sélectionne les solutions les plus efficaces, les plus économes en énergie et en ressources. L'idée n'est pas nouvelle. Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur, disait déjà Léonard de Vinci. Le biomimétisme vous est raconté aujourd'hui par Tariq Chekchak. Il est à l'origine chercheur en biologie marine et membre du Centre européen du biomimétisme. C'est un fin connaisseur du sujet. Il est l'un des fondateurs de l'Institut des futurs souhaitables. Il conseille de nombreuses grosses entreprises qui cherchent à avoir moins d'impact sur l'environnement.
Les aventuriers sur France Inter.
Le biomimétisme, c'est l'art de s'inspirer de la nature pour essayer de résoudre des challenges humains, des problématiques humaines. En fait, ça vient de la bio-inspiration, qui est vieille comme l'humanité, hein, l'art de s'inspirer de la nature. Le chasseur-cueilleur ou l'inouk qui observe l'ours blanc pour chasser le phoque, près des agglous, les trous de respiration, quelque part, il fait de la bio-inspiration. Par contre, dans le biomimétisme, il y a une intention d'éco-conception. Et ça, c'est une américaine qui s'appelle Janine Binius qui, la première fois, a posé cette intention. Donc, pour résumer, c'est de l'éco-conception bio-inspirée.
L'idée du biomimétisme, c'est que la nature, depuis près de 4 milliards d'années, a développé des choses formidables et que ce serait dommage de se passer de ses recettes.
C'est tout à fait ça. Il y a eu 3,8 milliards d'années, c'est ce que la science, en tout cas, pense pour le moment. C'est pas impossible qu'on ait des surprises, d'ailleurs, et qu'on découvre que c'est encore un petit peu plus ancien. Mais en tout cas, la vie est apparue assez tôt sur Terre. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'épisodes, y compris des extinctions massives. Malheureusement, on en parlera peut-être tout à l'heure, on est en train de provoquer la sixième. Mais il y en a eu d'autres avant. Il y a des tas d'espèces qui sont passées à travers ces changements. Un requin, c'est des centaines de millions d'années sans avoir vraiment changé de forme et de fonction écologique. Et l'idée, c'est qu'on a peut-être quelque chose à apprendre de ces espèces qui ont traversé le tamis de l'évolution.
Tariq Chekchak, vous parlez de biomimétisme et dans les années 60, on parlait de bionique. Je vous propose d'écouter cet extrait de l'émission Sciences et Techniques du 20 septembre 1968 et vous allez entendre Lucien Gérardin, ingénieur en chef chez Thomson, qui donne sa définition de la bionique.
C'est dans le fond la science, les systèmes artificiels qui s'inspire des systèmes vivants ou qui les copient ou qui ont le même fonctionnement. Donc, dans le fond, l'idée est assez claire. La nature a créé un certain nombre de systèmes. Le plus parfait, nous avons toujours tendance à penser que c'est l'homme, quoi, par un orgueil bien naturel. Et, mon Dieu, si ces systèmes ont survécu, c'est probablement ceux qui ont survécu étaient probablement meilleurs que d'autres. Il y a donc sûrement des leçons à en tirer. Et c'est l'idée fondamentale de la bionique. Il ne s'agit pas, dans le fond, de copier servilement ce qu'a fait la nature. Il s'agit beaucoup plus, maintenant, dans l'esprit des bioniciens, de chercher des modèles, de chercher des idées, de s'inspirer, dans le fond, de ce qu'a fait la vie et des solutions qui sont en général très élégantes et très performantes pour, dans le fond, construire des machines qui seront utiles à l'homme.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette définition ?
Au départ, on parlait plutôt de bionique, ensuite de biomimétique, et le mot biomimétisme, lui, maintenant, est réservé à l'éco-conception.
Donc, théorisé par Janine Banyuns, qui en 1997 disait « La nature est beaucoup plus riche d'enseignements que de ressources à exploiter. Il y a finalement beaucoup plus à comprendre qu'à inventer ».
Tout à fait, tout à fait. Et les chercheurs en France aiment bien parler de bio-inspiration aussi. C'est souvent le terme qu'on va retrouver. Donc tout ça, c'est de la sémantique qui ne semble pas très très importante finalement d'un premier regard. Mais par contre, le fait de distinguer l'intention d'éco-conception comme l'a fait Janine, ça, de mon point de vue, c'est quand même très important.
Et vous allez nous donner des exemples dans cette émission. Mais avant ça, j'aimerais bien que vous nous disiez comment vous êtes arrivé à ce sujet.
Alors, c'est un parcours de vie qui m'a mené finalement de la conservation, de la protection de l'environnement à l'innovation. C'est vrai que c'est peut-être important, non pas pour parler de moi, mais peut-être comprendre pourquoi je suis arrivé au biomimétisme. J'ai longtemps travaillé pour Cousteau. L'équipe Cousteau en France et la Cousteau Society aux États-Unis en tant que directeur sciences environnement. Mon principal travail était d'essayer de créer des parcs nationaux marins d'un nouveau genre qui fassent le lien entre protection de biodiversité remarquable dans des endroits qui n'avaient pas connu beaucoup de développement, donc ce que les Nations Unies appellent les endroits post-crise, comme par exemple la côte du Soudan, donc avec des récifs de coraux incroyables, des quantités de requins encore qu'on ne retrouve plus ailleurs, et en même temps des besoins humains qui n'ont pas été remplis. Donc, lien entre protection de la biodiversité, réduction de la pauvreté. Et on a fait des belles choses. On a contribué, par exemple, à faire classer patrimoine mondial cette zone, avec des vraies alternatives économiques pour les pêcheurs qui pêchaient les ailerons de requins, qui tout d'un coup ont trouvé un avantage à protéger la biodiversité. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec vos bonnes pratiques face au changement climatique, face à l'océan de plastique qui arrive dans les océans? Tout ça peut s'effondrer du jour au lendemain, malgré les bonnes actions que vous avez mis 10 ans à mettre sur le terrain. Donc j'ai connu un petit découragement. Je suis aussi chef d'expédition polaire, donc j'ai vu les pôles changer depuis 25 ans. Et à un moment donné, comme je suis plutôt d'un tempérament optimiste, c'est peut-être pas pour rien que grâce à un ami qui s'appelle Gauthier Chapelle, j'ai entendu pour la première fois parler du biomimétisme il y a une quinzaine d'années. Et je me suis dit que c'était la pièce du puzzle qui me manquait pour monter en amont, travailler avec les designers, les industriels et finalement trouver des solutions inspirées de ce qui émerge depuis 3,8 milliards d'années. On dit qu'il y a 3,8 milliards d'années de recherche et développement en durabilité.
You're saying you can get it wrong and still think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and
Can work it out, c'était Stevie Wonder.
Les aventuriers sur France Inter.
Il y a une convergence entre ce qu'a développé le vivant en presque 4 milliards d'années et les grands enjeux de société. Le biomimétisme permet d'imaginer un monde sans gaspillage, un monde où les ressources seraient optimisées. Coquillages, arbres, ruches inspirent déjà aujourd'hui les urbanistes, mais aussi les industriels.
Alors il y a des tas d'exemples. Hein. Il y a par exemple quelqu'un avec qui je collabore souvent qui s'appelle Gillian Grave, qui est professeur à NC Les Ateliers, qui enseigne aussi à Sciences Po, qui a mis au point un prototype de bouilloire, donc un objet du quotidien. En général, on a besoin de faire chauffer de l'eau régulièrement et on gaspille beaucoup d'énergie en fait, hein, mine de rien, par ce petit instrument du quotidien. Et lui s'est inspiré de plusieurs modèles vivants pour créer un nouveau style de bouilloire qui va fonctionner un peu comme le Nautilus pour la compartimentation. Donc on va chauffer que la quantité d'eau dont on a besoin et éventuellement, en bougeant des petites séries de clapets, augmenter le volume que en fonction du besoin. Mmh. Il s'est aussi inspiré de la façon dont l'ours polaire va garder sa température. Il y a plusieurs en fait modèles vivants qui ont permis en fait à cette bouilloire de voir le jour. Pour le moment, elle est restée sous forme d'un prototype parce qu'elle est trop chère et il n'y a que les gens qui peuvent aimer les objets de luxe qui peuvent pour le moment se l'acheter.
Ah, quel dommage!
Mais il y a une réflexion pour essayer justement de trouver d'autres matériaux parce qu'elle a besoin d'être imprimée en 3D pour le moment. Mais c'est un prototype.
À propos des choses du quotidien, il y a quelque chose qu'on utilise tous, c'est le Velcro. Le Velcro a été bio-inspiré. Écoutez cet extrait d'une émission de 1992 de France 3.
Ça y est, j'ai trouvé ! Les terriens, dans leur navette spatiale, fixent les objets avec du scratch. Il y a deux bandes, une qui est recouverte de petits crochets et l'autre de petites boucles molles comme des cheveux frisés.
Ah oui ! Quand on les colle, les crochets s'accrochent dans les boucles et ça tient. Et quand on les décolle, ça se défait. Ben c'est tout simple, mais c'est vraiment très malin. Et comment ils ont eu cette chouette idée, les terriens ?
Tu vas voir, oh, c'est trop bon comme histoire. Alors, ça se passe en Suisse, en plein milieu du XXe siècle. Georges de Mestral est ingénieur et il aime beaucoup se balader dans la forêt avec son chien. Mais après la promenade, quand il rentre à la maison, il doit débarrasser les poils des oreilles de son chien de toutes les graines qui s'y accrochent. Ça l'énerve un peu, hein. Et puis un jour, par curiosité, il regarde ses graines à la loupe. Et là, il voit qu'elles sont hérissées de petits crochets raides qui se fixent sur les poils mous du chien. Et il se dit qu'en copiant la nature, lui aussi, il pourrait inventer un système de fixation qu'on peut ouvrir et fermer à volonté.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du Velcro ?
Le Velcro, c'est vraiment un des exemples classiques de bio-inspiration, où on voit aussi qu'il y a une part de hasard. Mais comme disait Pasteur, le hasard ne favorise que les penseurs préparés. Et Georges de Mestral, qui se promenait avec son chien, effectivement, a constaté cette fabuleuse capacité de la graine de barbade de s'accrocher au poil du chien. Et en regardant comment ces petits crochets fonctionnaient, c'est comme ça que finalement l'innovation est apparue. Et donc... Alors on n'est pas dans l'éco-conception, mais c'est pas grave, hein. C'est quand même très intéressant de voir que on peut aussi réfléchir à remplacer le plastique du Velcro maintenant par quoi ? Par quel type de matériaux qui ne poserait pas de problème en termes d'écotoxicité ou de dégradabilité ? Donc on voit très bien que cette capacité de l'humain de s'inspirer de la nature peut maintenant être réinvestie avec un cahier des charges d'éco-conception. Le Velcro, c'était les années 60, je crois, si je me trompe pas. Et donc maintenant, on est dans les années 2020, avec de nouveaux challenges de société qu'il nous faut résoudre.
Et écoutez ce dont on rêvait à la télévision en 1965.
Si nous savions imiter les mécanismes qui permettent à l'oiseau de voler, de se diriger, de reconnaître son nid ou son territoire, nous pourrions espérer faire des progrès stupéfiants. C'est cela le but que propose la bionique aux hommes de science, aux chercheurs de l'an 2000. De plus en plus, il se trouve pourtant des hommes qui croient que la bionique sera une discipline d'avenir très féconde. En France, le centre de prospective du ministère des Armées a décidé depuis un an de favoriser les recherches dans ce domaine.
Alors le biomimétisme est très important dans le domaine des énergies. On peut vraiment faire des économies d'énergie grâce aux inventions de la nature ?
On peut en faire d'énormes, tout simplement parce que l'évolution n'aurait pas permis aux espèces dispendieuses en énergie et en matériaux de rester sur Terre. Parce qu'il y aura toujours un concurrent qui sera capable de mieux utiliser l'énergie ou les matériaux que vous et qui risque de vous remplacer. Donc après des millions et des millions et des milliards d'années d'essais et erreurs, on a des performances incroyables en termes de sobriété énergétique et en matériaux. Et on se rend compte de quoi ? On se rend compte que le vivant, les systèmes vivants, y compris nous avec notre corps, hein, nous sommes aussi un système vivant, misent beaucoup sur l'information, plus que la consommation de matière et d'énergie. Un design de l'information intelligent est une des clés de la performance du vivant. Pensez à l'ADN, pensez aux hormones, qui sont des médiateurs en fait d'information, aux comportements, aux couleurs. Tout ça permet d'optimiser en fait et d'être en contact avec son environnement, de corriger ses trajectoires. Et donc du coup, ça explique aussi pourquoi, en termes d'énergie et de matériaux, on est dans une performance remarquable.
Et voilà pourquoi vous dites, Tariq Chekchak, que l'énergie solaire, finalement, il suffit de copier les feuilles des arbres.
Alors, il suffit, et c'est pas si simple.
Mais non.
Parce que, effectivement, quand on parle justement de cette nécessité de la transition énergétique pour découpler nos créations de valeur des énergies fossiles, et aussi de l'économie extractrice des ressources de la croûte terrestre, eh bien, on se rend compte que le vivant le fait depuis très longtemps. Le vivant le fait depuis très longtemps, plus de presque 3 milliards d'années, avec, entre autres, la photosynthèse. Mm. Cette capacité remarquable qu'ont trouvé certains végétaux de prendre l'énergie solaire et de la transformer en matière, en sucre et en autres éléments qui sont importants pour toute la chaîne alimentaire ensuite. Eh bien, il y a des tas d'équipes à travers le monde, y compris en France, qui travaillent sur ce concept de photosynthèse artificielle. Si on compare avec nos panneaux solaires actuels, et c'est pas pour critiquer, simplement pour dire que c'est un premier pas intéressant, mais qu'on pourrait peut-être aller aussi loin que ce que font les arbres ou d'autres plantes qui vous entourent, c'est que pour le moment, nos technologies sont basées sur quoi ? Sur des terres rares, sur des choses qui viennent de l'autre bout de la Terre en général, et donc on est dans un paradoxe où on utilise l'énergie solaire en continuant finalement le paradigme du 19e et du 20e siècle qui est basé sur l'extraction de ressources non renouvelables. Les feuilles, c'est des ressources disponibles autour de l'arbre. Et en plus de ça, une fois que le panneau solaire ne joue plus sa fonction, vous pouvez le manger en salade si vous voulez, il devient la ressource pour quelqu'un d'autre. Et là, en fait, on est dans une invitation qui peut être aussi quelque chose qui va vraiment changer complètement le paysage énergétique, parce que vous pouvez imaginer des peintures et des gels photosynthétiques que vous pouvez mettre sur des tas de surfaces. Le rendement par unité de surface est beaucoup plus faible chez un arbre que chez un panneau solaire moderne.
Mais oui, mais il y a pas besoin d'extraire quoi que ce soit, ni de fabriquer non. des panneaux
Regardez
solaires comme aujourd'hui.
Et c'est pas juste faire de l'énergie solaire, c'est aussi des échanges de gaz, c'est aussi faire remonter l'eau, la circulation de la sève, etc. Le vivant est multifonctionnel.
Mais vous dites, on peut imaginer, où est-ce qu'on en est ?
Alors, il y a plusieurs équipes à travers le monde qui travaillent sur ça, entre autres pour le couplage avec le stockage en utilisant l'hydrogène. On est encore en train d'utiliser en fait des réactifs qui sont plutôt loin de ce que font les plantes. Et il y a des phénomènes quantiques qu'on n'arrive pas encore complètement à imiter, des effets tunnels, y compris dans la photosynthèse d'une feuille, d'une simple feuille que vous croisez dans votre quotidien. Donc, il y a, je pense, à soutenir encore ces recherches-là pour qu'on passe un seuil, parce que là, ça peut vraiment complètement changer notre façon de récupérer l'énergie solaire.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. la même mélodie, mais pas avec le même son. Et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons. Mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même.
Ce tempo nous impose un grid de 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 60 minutes par heure et beaucoup de secondes. Et nous, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on enlève pour arriver à notre propre pattern. Notre pattern qui n'est pas terme, qui n'est jamais terme.
Duo avec Philippe, Catherine et Angèle.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Plus de 170 laboratoires travaillent sur le biomimétisme en France. D'importants acteurs du secteur de l'énergie ou des transports s'intéressent au sujet. Par exemple, les ailes des Airbus sont inspirées des ailes des rapaces. Le CEBIOS, le Centre européen d'excellence en biomimétisme, regroupe des institutionnels et des privés qui s'inspirent déjà du vivant.
En France, il y a une synthèse du Centre européen d'excellence en biomimétisme pour essayer de repérer tous les laboratoires, pas simplement les laboratoires, les entreprises aussi, qui travaillent sur la bio-inspiration.
Donc vous parlez du CEBIOS.
Centre européen d'excellence en biomimétisme qui est basé à Senlis et qui est un peu le hub, le réseau en France, et avec une vocation européenne aussi, mais qui est vraiment le réseau en France. Et il y a plus de 150 laboratoires en fait qui ont été identifiés il y a quelques années. Je pense qu'on est même à un nombre un peu supérieur maintenant. Tous ne font pas forcément des recherches liées à l'éco-conception, mais font par contre de la bio-inspiration et sont intéressés à voir comment finalement maintenant les énergies de recherche, les énergies créatives peuvent s'orienter vers l'éco-conception.
Et ça a donné lieu à quelques débouchés. On peut prendre l'exemple d'Airbus qui a modifié la forme de ses ailes en regardant les oiseaux. Écoutez ce reportage de 2016 qui a été diffusé sur France 2.
Depuis 2 ans sur ces Airbus, les ailes ne sont plus plates mais recourbées au bout. Une réplique des plumes de rapace.
Ce dispositif en fait a été adopté après l'observation des aigles qui déploient des rémiges en extrémité de leur voilure pour améliorer leur performance aérodynamique. Si vous voulez, pour voler plus longtemps, avec moins d'énergie et avec plus d'efficacité. C'est ce dispositif qu'on a appliqué sur notre avion et il se trouve qu'il nous permet d'économiser 4% de carburant.
C'est un bel exemple, ça.
Alors, c'est un bel exemple parce que ça permet effectivement de réduire les consommations d'énergie. On peut aller un peu plus loin. On peut, et d'ailleurs, je pense qu'Airbus le fait actuellement. Je crois que c'est Airbus, si je me trompe pas, sur la structuration de l'avion lui-même, c'est-à-dire mettre de la matière exactement là où il en faut et pas ailleurs, tout en garantissant une bonne solidité structurelle. Regardez les os des oiseaux, par exemple. Vous avez un paradoxe que la nature a réussi à régler, de devoir être suffisamment solide pour résister éventuellement aux chocs ou aux turbulences, et en même temps, pas trop lourd, parce que, ben voilà, c'est un oiseau qui est censé voler. Et maintenant, le challenge, ce n'est pas seulement de réduire les dépenses énergétiques en énergie carbonée, mais c'est aussi trouver le moyen, effectivement, de pouvoir se déplacer en utilisant d'autres sources d'énergie, que ce soit l'hydrogène, que ce soit l'énergie solaire, pour le stockage sous forme d'hydrogène, par exemple. Là, je pense que toute l'industrie aéronautique est en train d'explorer ce type aussi de possibilités.
À propos des énergies, justement, vous m'avez raconté qu'il y a des hydroliennes, comme des éoliennes, mais en mer, qui copient les poissons.
Tout à fait, c'est une entreprise française en plus qui a lancé ce projet qui s'appelle Il Energy, Il voulant dire anguille en anglais, mm-hmm. parce qu'il vise le marché international. Et Monsieur Drevet avait fait le constat que, bien que pour utiliser l'énergie des mers, on utilise des turbines, un peu comme dans nos barrages, eh bien, chez les espèces aquatiques, les poissons entre autres, mais les mammifères marins aussi, il n'y a pas de turbine, il n'y a pas d'hélice. C'est plutôt des membranes ondulantes. Partant de ce constat, ils ont mis au point une membrane ondulante qui est capable, en fait, d'onduler quand il y a du courant, y compris du courant faible, capable aussi de fonctionner en groupe, sans se gêner les unes les autres, et qui ne sont pas des hachoirs à biodiversité quand il y a des planctons ou d'autres organismes qui passent à travers elles. Et donc, ça a été testé il y a déjà 3 ans avec l'Ifremer, et maintenant c'est en cours de développement pour avoir un prix au kilowatt-heure qui soit concurrentiel, et c'est le cas. Donc ils sont en train vraiment, c'est plus une start-up d'ailleurs, ils ont monté un petit peu en puissance, Ilénergie.
Autre exemple que vous aimez beaucoup, des éoliennes qui copient les baleines.
Ça aussi c'est un exemple intéressant parce qu'en fait vous avez des baleines à bosse qui sont capables de faire des mouvements extrêmement gracieux et malgré leur volume et leur masse. Et en fait elles ont sur leur pectoral, leur nageoire pectorale, des nodules qui créent des turbulences qui facilitent ce qu'on appelle les écoulements laminaires. Des sortes de vortex finalement. Et là en fait ça permet d'expliquer une partie de leur performance. Il y a un ingénieur aux États-Unis qui a essayé d'imiter cela pour des pales d'éoliennes, cette fois-ci, donc on est dans l'air, mm-hmm. de façon à réduire d'une part les nuisances sonores provoquées par les éoliennes, mais également pouvoir fonctionner sur une plage d'usage plus large, y compris avec des vents plus faibles. Et ça, le prototype a très très bien fonctionné. Et pour la petite histoire, c'est malheureusement resté au stade du prototype. Pourquoi ? Parce que les carnets de commandes des éoliennes sont pleins et ils n'ont aucune raison de modifier leur process pour le moment. Par contre, ça fonctionne très bien.
Alors, mouettes, mouches, lézards, poissons, tous ces animaux ont mis des milliards d'années à perfectionner leur système de déplacement ou de vision. Écoutez cet extrait d'une émission de France 2 diffusée en 2012.
Regardez les mouches voler, Stéphane Violet est payé pour ça. Sa spécialité, l'œil de mouche, et c'en est un admirateur.
Allez, allons à la chasse à la mouche. Une mouche est capable de multiples prouesses, par exemple, est capable d'éviter les obstacles dans un environnement qu'elle ne connaît pas a priori. Elle est capable d'atterrir automatiquement, de décoller automatiquement.
Ici, pas question de faire du mal à une mouche. Entre deux expériences, on prend même le temps de réhydrater la bête. Au bout de la pince, quelques gouttes d'eau pour cette mouche qui commence à fatiguer.
Elles ont besoin de force pour l'expérience.
Exactement, des expériences éprouvantes. Allez, cocotte.
L'œil de mouche, Stéphane Violet s'en est inspiré pour mettre au point un œil artificiel. Ce petit robot dénommé Laura en compte 4.
Alors grâce à sa vision de type mouche, on va dire, grâce à sa vision du mouvement, ce robot est capable d'éviter de rentrer en collision avec les parois de ce couloir ici.
Une trajectoire encore hésitante et pourtant dans quelques années cette technologie devrait faire mouche. À terme, les aveugles pourraient troquer leur canne pour ses yeux artificiels.
Les mouches peuvent donc nous en apprendre beaucoup.
Oui, et l'œil des mouches est vraiment un organe fascinant. Et tous les yeux d'ailleurs en général. La capacité à voir est apparue donc il y a quelques millions d'années pendant ce qu'on appelle la révolution du Cambrien. Et il y a eu en fait des tas d'innovations dans tout le règne animal en ce qui concerne les yeux, que ça soit chez les céphalopodes, les poulpes, ou bien les insectes, ou bien nous les humains. Et juste pour rebondir justement sur le fait qu'il n'y a pas que les mouches qui peuvent servir de modèle, il y a actuellement une caméra qui a été développée par la société Chronocam, qui est capable en fait d'imiter aussi le fonctionnement de l'œil humain pour faire nouvelles caméras qui non seulement sont capables d'enregistrer l'information, mais un peu comme c'était dit un petit peu dans votre exemple, ne pas en permanence utiliser énormément de données pour tout enregistrer, mais enregistrer seulement ce qui change. Et en fait, on a un encombrement des serveurs actuellement par des données, entre autres vidéos de surveillance ou même des vidéos pour les véhicules autonomes,
oui. hein,
où vous avez en permanence besoin de tout enregistrer. Alors ce qui vous intéresse vraiment, c'est ce qui change, ce qui peut poser un risque. Et là, en fait, c'est basé sur effectivement l'analyse de l'œil humain. Donc il y a la mouche pour éventuellement le déplacement. C'est un peu le même principe, j'enregistre pas tout, mais simplement quelques paramètres qui vont simplifier d'une manière énorme l'information que je dois capter et néanmoins me permettre d'avancer de manière sécurisée vers mon but. Donc ça, c'est l'exemple qu'on a écouté. Et Chronocam pour le côté digitalisation de l'information avec un allègement très très significatif de la quantité d'informations nécessaires pour pouvoir détecter des choses qu'on veut détecter.
Tariq Chekchak. Ce n'est pas nouveau, ça. Déjà en 1965, le directeur du service de prospection du ministère des Armées comptait beaucoup sur l'œil des grenouilles.
L'œil de grenouille dont nous parlions tout à l'heure a une caractéristique, disons, séduisante, c'est qu'il ne voit que ce qui bouge. Et donc tout ce qui ne bouge pas ne le voit pas. C'est extrêmement intéressant, par exemple, pour les applications, disons, dans le domaine de l'automobile, où si on supposait qu'on mettait un œil de grenouille sur une voiture, elle ne verrait que les voitures qui bougent par rapport à elle. Je pense que là, il y a quelque chose à étudier pour éviter un certain nombre d'accidents. Donc je pense qu'il y a des tas de voies sur lesquelles, si on réussit à vraiment percer le mystère qui fait que ces animaux ont des performances extrêmement séduisantes, le résultat sera véritablement quelque chose d'inattendu.
C'était donc un exemple de 1965 où déjà à cette époque, on comptait sur les yeux des animaux pour innover. Pour vous, le biomimétisme aujourd'hui va apporter des innovations de rupture. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, innovation de rupture ?
Alors, innovation de rupture, c'est quelque chose qui change la donne par rapport à ce qui existait précédemment. Par exemple, si jamais vous passez du téléphone des années 80 au smartphone, vous êtes dans une innovation de rupture parce que c'est bien plus qu'un téléphone finalement que vous avez dans les mains. C'est à opposer à innovation incrémentielle. Si je reprends l'exemple des téléphones, maintenant on ne fait qu'améliorer finalement version 1, version 2, version 3, ce qui a été à un moment donné un saut finalement par rapport à la solution qui préexistait.
Rupture, ce n'est pas améliorer, c'est aller dans
changer une autre direction. Une autre direction, exactement. Alors oui, effectivement, mais la question clé qui, à mon avis, doit précéder cette envie d'innovation de rupture, c'est est-ce que ces ruptures par rapport à l'économie extractrice, consommatrice d'énergie non renouvelable et de matière non renouvelable ? En tout cas, dans le biomimétisme qui est de l'éco-conception, c'est ça la question clé. Effectivement, comme dit Mathieu Baudin, le créateur de l'Institut des Futurs Souhaitables, les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe. Donc le cahier des charges doit être d'essayer de créer une rupture par rapport à cette dépendance en mode de production, en mode de consommation, qui ont créé des tas de valeurs, hein, on va pas non plus revenir là-dessus, mais qui causent des dégâts systémiques dont on voit actuellement que les effets ne sont pas possibles à accepter sur le long terme et même sur le moyen terme.
Exemple d'innovation de rupture, fabriquer du verre à température ambiante.
C'est un des exemples que je préfère, parce que là, vraiment, on a d'abord plusieurs modèles vivants. Vous avez les diatomées, qui sont des toutes petites algues, en fait, qui ont des magnifiques petits squelettes en verre.
C'est merveilleux à regarder.
Absolument. Et ça inspire beaucoup au niveau de la forme, d'ailleurs, des architectes, par exemple, ou des designers d'objets. Mais là, ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est le fait même que ça soit fait en verre. Il y a une éponge aussi en Antarctique qui est capable de vivre dans une eau qui a moins de 2 degrés Celsius et qui a un magnifique squelette en verre. Et le verre, c'est quoi ? C'est de la silice qui a été donc synthétisée sous forme de verre par ces organismes-là. Nous, pour faire du verre humain, on a besoin de monter en température à plus de 1000 degrés Celsius.
Quand c'est pas 1400,
ça dépend des types de verre, tout à fait. Et si vous prenez l'exemple aussi bien de l'éponge que des diatomées, vous avez un verre extrêmement fin qui est fabriqué à température ambiante dans de l'eau. Et on pourrait se dire, est-ce que nous, humains, qui nous sommes autoproclamés homo sapiens sapiens, on est capable de faire comme une éponge qui a plusieurs centaines de millions d'années, ou comme une simple petite algue microscopique ? Eh bien, rassurez-vous, la réponse est oui. Si on se donne ce cahier des charges de synthétiser dans de l'eau à température ambiante et à pression ambiante, eh bien, vous avez un laboratoire en France comme celui de Jacques Livage ou de Clément Sanchez lié au Collège de France qui ont été capables de faire ce qu'on appelle le procédé sol-gel, donc de la synthèse de verre dans de l'eau en imitant les diatomées. On n'est pas capable de faire des doubles vitrages pour le moment. On est capable de faire des revêtements en verre. C'est également extrêmement utile pour tout ce qui est biomédical pour enfermer dans des microcapsules de verre éventuellement des principes actifs qu'on n'a pas envie de voir se balader dans tout le corps, ou bien des bactéries qui peuvent nous rendre un service de détoxification, par exemple, de l'eau. C'est vraiment quelque chose de remarquable. On a remplacé le feu par l'eau. Et là, ça donne beaucoup d'espoir.
Une économie d'énergie formidable, en fait.
Formidable. Et aussi une toxicité bien, bien moindre de nos process.
She wants to run from me, so I will set her free. Shine in my eyes, you're blinding like you were. Wasting my own time, I'm saying I am fine.
C'était Yaël Naïm.
Les Saventuriers sur France Inter.
La nature est une mine d'idées pour la chimie, l'énergie, la médecine, la robotique, les nanotechnologies, les transports, le bâtiment ou la défense. Car la vie a inventé beaucoup. Des solvants, des ciments, des câbles ultra solides, des matériaux aux structures originales. Le bec du martin-pêcheur a donné sa forme au nez des trains japonais. Voici quelques-uns des exemples préférés de Tariq Chekchak, biologiste spécialiste du biomimétisme. Et on commence avec le fil de l'araignée.
Le fil d'araignée est vraiment un matériau remarquable et stimule en fait des recherches à travers le monde avec des applications qui commencent à apparaître entre autres en Allemagne. Des propositions aussi de production avec lesquelles je me sens moins en phase, comme par exemple introduire des gènes d'araignée dans des chèvres pour pouvoir leur faire produire la soie dans leur lait. Ou là, moi personnellement, je ne qualifierais pas ça de biomimétisme. Mais en tout cas, le fil d'araignée est bien plus performant que le plus fort des aciers, jusqu'à 30-40 fois plus solide, à épaisseur égale, et en même temps extrêmement élastique. Donc bien sûr, ça fascine aussi bien pour des matériaux qui sont capables en fait de résister au choc, comme par exemple des gilets pare-balles, hein, pour les personnes qui sont exposées. Mais
donc
également,
on fabrique déjà ça.
Alors, il y a une société maintenant qui est capable de faire de la synthèse. Donc, il y en a même deux, mais il y en a une qui est capable de le faire vraiment dans ce qu'on appelle des bioréacteurs à base de bactéries. Et pour le moment, on est encore, on va dire, à la limite de l'exploitation réellement industrielle. On est plutôt en train de commencer cela. Donc c'est sur des coûts qui sont pas forcément extrêmement intéressants pour d'autres industries que l'industrie, par exemple, militaire ou de la protection, où on est en train de tester finalement un petit peu ces applications-là. Mais il y a un énorme potentiel à partir du moment où on réussira à passer à l'échelle, parce qu'on a un matériau très très résistant et en même temps très souple.
Je vous propose une petite lecture, un extrait de Plutarque, un homme fascinant qui vivait au 1er siècle à Rome. Il était originaire de Grèce, mais il vivait à Rome. Il était philosophe, il était aussi politicien et il observait beaucoup. Écoutez ce qu'il disait de l'araignée déjà.
Qui n'admirerait le travail de l'araignée ? Il a servi de modèle aux femmes pour ourdir leurs toiles et aux chasseurs pour faire leurs filets. Premièrement, la finesse de ses réseaux, qui ne sont pas détachés les uns des autres ni séparés, n'en forment qu'un seul tissu que lie une humeur visqueuse qu'elle y mêle imperceptiblement. En second lieu, la couleur de sa toile, qui est celle de l'air, ne présente qu'une surface obscure et par cela plus propre à tromper. Mais ce qui est plus admirable que tout le reste, c'est de voir avec quelle adresse elle dirige et gouverne sa machine quand quelque insecte vient à s'y prendre. Plutarque, Intelligence des animaux, 1er siècle.
L'araignée peut donc être source d'inspiration, comme les moules qui inspirent des cols naturels ou les coraux qui ont inspiré des crèmes solaires.
Tout à fait, il y a une société qui s'appelle Purebound qui a développé en fait une colle qui ne dégage aucun polluant. En imitant quoi ? Effectivement, la capacité des moules à s'accrocher à des surfaces incroyables. D'habitude, pour nos cols, on a besoin en général de bien frotter avec parfois du papier de verre pour être certain que tout adhère bien. Et les moules sont capables d'adhérer dans de l'eau, sur des surfaces qui sont gluantes d'algues, qui sont éventuellement brassées par les courants et par les vents. Quand c'est marée basse, c'est aussi exposé au vent, aux éléments aériens. Et pourtant, ça tient. Et nous, l'école, en fait, c'est un sujet de santé publique qui est loin d'être négligeable.
Ah oui.
Dans tous les environnements intérieurs, il y a des cols, les contreplaqués, etc., qui dégagent, en fait, à faible dose, mais quasiment en permanence, des micropolluants qui s'avèrent être des perturbateurs endocriniens, qui s'avèrent être poser des tas de problèmes physiologiques, en fait, aux habitants de ces espaces de travail ou de ces espaces intérieurs domestiques. C'est pour ça que c'est une très bonne idée d'aérer quelques minutes par jour si vous n'êtes pas dans une ville super polluée. C'est toujours mieux de le faire. Eh bien là, vous avez une colle qui ne dégage aucun polluant et qui est super efficace. Alors, en plus de ça, ce que j'aime bien dans l'exemple de Purebound, c'est qu'ils ne sont pas allés extraire les protéines des moules. Ils pourraient le faire, hein, avec un couplage avec l'industrie de l'alimentation, par exemple. Mais ils ont compris comment fonctionnait la chimie des moules et ils se sont servis de produits qui viennent de déchets de l'industrie du soja. Et donc, on est aussi dans de l'économie circulaire. Alors là, je dis bravo, on est vraiment dans du biomimétisme. On s'inspire d'eux. On n'utilise pas directement et en même temps on fait de l'économie circulaire, donc là le déchet devient ressource.
Vous aimez bien aussi parler d'un adhésif qui est issu du monde du vivant et qu'on utilise déjà pour coller les tapis.
Alors oui, alors ça c'est intéressant parce que ça montre que une grande entreprise internationale qui fabrique au départ plutôt des moquettes industrielles ou pour les entreprises, je parle d'interface. En fait, son fondateur s'est très très tôt intéressé au biomimétisme aux États-Unis et il a vraiment décidé de faire un virage stratégique en utilisant également ce qu'on appelle une approche stratégique du développement durable, c'est-à-dire de concevoir toute la stratégie de l'entreprise sur le modèle de l'économie circulaire. Donc, encore une fois, prendre des déchets et les transformer en ressources et prendre en charge sur l'ensemble de sa chaîne de valeur les conséquences en fait de ces modes de production, de transport pour les matériaux, etc. Donc ils ont fait ça et ils ont aussi testé le biomimétisme pour plusieurs innovations. Et celle que vous mentionnez, en fait, leur modèle, ça a été le gecko. Vous savez, le lézard qui est capable de marcher sur à peu près toutes les surfaces
au
qui utilise en fait des forces physiques extrêmement faibles, avec des tout petits poils en fait qui sont capables de rentrer quasiment dans les microsurfaces et grâce à ça d'adhérer. Et il y a un mouvement en fait de la patte que je peux pas montrer à la radio, mais qui est une sorte de mouvement ondulant qui permet de décrocher et ensuite de raccrocher éventuellement pour pouvoir finalement adhérer et décoller quand c'est nécessaire. Et sur cette base-là, en fait, ils ont réduit de manière extrêmement importante leur quantité de colle quand il s'agissait d'installer des moquettes, en mettant à quelques endroits stratégiques des tout petits patchs qui utilisent ce même type de principe, de façon à ce que vous puissiez les décoller par un simple mouvement, très facilement, et pouvoir remplacer éventuellement le carré de moquette que vous avez besoin de remplacer sans vous avoir besoin de tout décoller.
Et dans un instant, on va parler des systèmes, mais avant cela, ce texte de Baudelaire que vous appréciez beaucoup.
La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Correspondance, Charles Baudelaire.
C'est vous qui avez voulu ce texte, pourquoi ?
C'est surtout la première partie qui me touche beaucoup parce que quand Baudelaire dit « la nature est un temple de vivants piliers » finalement nous parle quelque part et qu'on essaye finalement de décrire un petit peu ce langage, ça représente bien l'intention du biomimétisme quelque part, d'essayer finalement de se relier à ce qui est déjà là, ce qui est déjà émergent autour de nous et peut-être utiliser notre intelligence et notre sensibilité pour finalement apprendre de cela. Et ce que j'aime bien dans le poème de Baudelaire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de l'intelligence rationnelle qui va décrire, saucissonner en partie que l'on peut comprendre. La poésie a aussi sa place, la capacité d'émerveillement par rapport au vivant. Ça fait aussi partie intégrante de l'approche du biomimétisme, parce que sinon on risque de rater des choses essentielles. Si on n'est pas capable d'ouvrir son regard à un moment donné pour avoir le zoom large intérieur, si je puis dire, eh bien on va voir que ce qu'on s'apprête à voir. Je crois que c'est Pasteur aussi qui disait « Les penseurs qui ont une confiance excessive en leur théorie ne font pas de découvertes, ils ne font que de pauvres observations, parce qu'ils s'observent ce qu'ils attendent à voir. »
Tariq Chekchak, on a parlé du design, donc de la forme, on a parlé des matériaux. Il y a un troisième sujet que vous aimez bien aborder, c'est celui des systèmes. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot « système » ?
Système, c'est vraiment essayer de comprendre, finalement, décrypter la complexité d'une ville, d'un territoire ou même d'une organisation humaine. C'est de se dire, finalement, quels sont les liens, quelles sont les interrelations, quelles sont les propriétés qui émergent de ces interrelations.
Et vous dites qu'en observant une forêt ou un banc de corail, on peut imaginer des villes plus durables.
Absolument. Il y a vraiment, en fait, le jeu de la diversité qui explique la performance dans les écosystèmes. Et donc, la question clé que va se poser une ville, par exemple, c'est comment je vais être résiliente ou éventuellement même changer de trajectoire vers du souhaitable en imitant ce qu'on appelle la succession écologique d'une forêt. C'est-à-dire, je vais avoir peut-être un écosystème pionnier au départ qui va démarrer parce que j'ai des innovateurs dans un certain endroit de ma ville qui veulent proposer des nouvelles créations de valeur. J'ai un écosystème intermédiaire et j'ai la forêt mature. Et c'est pas les mêmes lois. À chaque fois qu'on compare une forêt mature, on veut tout de suite être une forêt mature, quelque part on va définir des prescriptions stratégiques qui vont pas être valables pour l'écosystème pionnier. Après, il y a toute l'approche qu'on appelle solution fondée sur la nature, qui est très très en vogue actuellement. C'est de se dire, finalement, est-ce qu'on peut pas créer une symbiose entre système humain et système non humain? Faire revenir des zones humides dans la ville pour lutter contre les îlots de chaleur, par exemple. Replanter des arbres. Faire en sorte que, finalement, on soit utile d'un point de vue fonctionnel aux besoins de la ville, particulièrement face à l'adaptation au changement climatique ou aux événements climatiques extrêmes, type grande précipitation, où vous avez le bitume qui accélère en fait, oui, le problème. Là, vous enlevez le bitume, vous remettez des zones humides et vous avez une symbiose qui se crée entre besoin des écosystèmes, parce qu'effectivement les zones humides sont en train d'être détruites un peu partout à travers le monde, c'est un des enjeux de la sixième extinction de masse, mais en même temps, vous créez ce qu'on appelle la ville éponge, la ville qui est capable de garder ses flux d'eau et de faire en sorte qu'ils soient même recyclés par les zones humides. Ça, c'est un des exemples. Les îlots de chaleur, effectivement, on se rend compte que dans une forêt, vous avez, si vous promenez en pleine canicule dans une forêt, vous sentez une fraîcheur, vous sentez que vous avez, oui, beaucoup moins chaud. Eh bien, comment utiliser, déjà, en peut-être travaillant avec les arbres, c'est-à-dire en replantant des arbres, mais aussi en imitant les arbres éventuellement pour certaines infrastructures, créer des canopées artificielles qui vont éventuellement recréer cette sensation-là. Moi, je préfère largement le côté collaboration avec le vivant, même si l'imitation du vivant est aussi bien sûr une direction intéressante. Ces quelques exemples comme ça vous montrent en fait qu'il y a beaucoup beaucoup d'enjeux de la transition des villes qui peuvent s'inspirer des écosystèmes ou collaborer avec les écosystèmes.
La forme même des bâtiments peut être inspirée de la nature.
Oui, tout à fait. Il y a un projet qui s'appelle Canopée qui a gagné un des concours de Réinventer Paris qui joue en même temps sur ces deux niveaux-là. Comment je vais m'inspirer dans la forme de certains arbres ou de certains écosystèmes et en même temps replanter plus de 1000 arbres dans mon infrastructure, dans mon habitat. Il y a aussi un groupe de travail qui a été créé par le CBIOS autour de la ville biomimétique. Donc c'est avec plusieurs grands acteurs de l'urbanisme qui sont partie prenante de cette réflexion.
Donc ces villes vont vraiment voir le jour, ces quartiers.
En tout cas, l'intention est là et à chaque fois qu'il y a de la rénovation de nouveaux quartiers ou éventuellement de la construction de nouveaux quartiers, de plus en plus, ce type de posture et d'intention semble percoler. Donc j'espère, l'avenir n'est pas encore écrit, mais en tout cas, c'est en train de monter en puissance.
Tariq Chekchak, encore un exemple. On peut optimiser les déplacements en s'inspirant du déplacement des fourmis.
C'est déjà le cas en fait. Hein. Beaucoup de personnes, oui, ne se rendent pas compte qu'à chaque fois qu'ils utilisent un GPS, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'algorithme des fourmis qui est finalement engrammé dans la façon dont le GPS va vous donner le résultat. Effectivement, les fourmis vont laisser en fait des informations dans leur environnement que d'autres fourmis sont capables de capter pour définir quel est le trajet le plus court entre leur nid, par exemple, et une source de nourriture. Et ces hormones, ces phéromones, ont un temps de latence dans l'environnement, parce que si jamais ça durait trop longtemps, il y aurait une saturation et le signal serait brouillé. Et à partir de ce type de choses, on définit en fait des algorithmes qui non seulement nous servent à définir le trajet le plus court entre deux points pour nos moyens de mobilité, mais aussi, par exemple, pour le routage des télécommunications. Et ça vient de l'algorithme des fourmis. Mais il y a l'algorithme des abeilles, le ratio prospection d'un nouveau site où vous avez finalement de la ressource comme des fleurs avec du pollen. Puis à un moment donné, il y a moins de ressources. Est-ce que ça vaut encore la peine de faire la distance et d'aller jusque là-bas par rapport à la ressource qui y reste? Ce qu'on appelle le ratio exploration-exploitation. Eh bien ça, c'est un algorithme qui vient des abeilles. Il y en a des tas d'autres. Il y a des tas d'algorithmes qui viennent de l'observation des systèmes vivants.
Quel sujet passionnant. J'ai cru comprendre que l'Allemagne était en pointe dans ce domaine. La France n'est pas trop mal placée.
C'est en train de monter en puissance vraiment grâce aux efforts du CBIOS et à toute la communauté, j'espère modestement y contribuer aussi en France. Je dirais qu'en Allemagne, oui, ça fait un moment où il y a eu pas mal en fait de fonds de l'État et des Länders pour soutenir aussi bien les industriels que la structuration des filières avec les collaborations avec des labos. La spécificité de la France, quand même, je tiens à appuyer là-dessus, c'est que grâce aux efforts du CBIOS, on se positionne clairement sur l'éco-conception. Alors que c'est pas si clair du côté d'autres pays, où c'est un petit peu tout mélangé. Là, je pense qu'on a une chance à saisir. On a un président qui, à tout début de son mandat, a déclaré « Make the planet great again ». Eh bien là, je pense que la spécificité du biomimétisme, qui est justement l'éco-conception bio-inspirée, pourrait être portée haut et fort par les entreprises et les chercheurs français.
On était à Cuba avec le Buena Vista Social Club. Merci beaucoup à Djoubaka qui a fait la programmation musicale de tous les aventuriers de cette série estivale. Si le biomimétisme vous intéresse, le site du CBIO s'est bourré d'exemples et de petites vidéos faites par Tariq Chekchak. Ces petites vidéos racontent de belles histoires et vous trouverez le lien du CBIO sur la page des Saventuriers. Par ailleurs, au mois d'octobre, à la Cité des Sciences, se tiendra la grande manifestation annuelle dédiée au biomimétisme. Enfin, sachez que Tariq Chekchak sera présent à Arles dans le cadre des rencontres Agir pour le vivant qui auront lieu du 24 au 30 août. Merci infiniment à Stéphanie Texier qui a réalisé cette émission. Merci à Fanny Leroy pour les recherches d'archives et aussi pour les lectures qu'elle a faites avec Jérôme Sandlars. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres et aussi les podcaster sur le site de votre station préférée. Très bonne semaine à tous et belle rentrée à l'écoute de France Inter.